Bonjour Rémi Vavinet.
Bonjour.
Alors, on est très content. On va parler de pub avec vous, avec ce livre qui s'appelle « Pas de publicité, merci », que vous sortez aux éditions JBE Books, qui est une brique d'or, un gros bottin, c'est un objet déjà en soi qui est magnifique, qui est un objet très original, passionnant. Voilà, c'est vraiment un livre dans lequel on a envie d'aller piocher, vous raconter plein d'histoires dedans, vous êtes entre souvenirs et réflexions un peu sociologiques sur la pub, on peut dire ça. Alors ouais. La première question que j'ai envie de vous poser, est-ce que le talent en pub, c'est nager à contre-courant ?
Oui, parce que surtout aujourd'hui, parce que je pense que l'uniformisation, même si elle peut prendre la forme d'une extrême polarisation, hein, souvent, mais c'est finalement ça revient à une forme d'uniformisation. C'est vraiment l'ennemi premier de la communication, parce que quand on n'est pas entendu, parce qu'on est pareil que les autres, on n'existe pas, on n'a pas d'identité et tout. Et c'est vrai que c'est un principe de base de la pub, c'est faire différent. Alors après, faire différent, dans l'absolu, ça n'a aucun intérêt, parce que c'est pas purement formel. Mais déjà, c'est un geste important. Puis après, il faut remplir ça avec des choses intéressantes, éventuellement. Mais ouais, faire différent.
Mais vous dites aussi dans ce livre, finalement, c'est un peu comme être un coiffeur. Le client, il faut l'amener à avoir une nouvelle coupe de cheveux, mais ce n'est pas ses habitudes. Mais en même temps, il faut le convaincre que ça va bien lui aller.
C'est ça. C'est ça, il y a un petit côté coupe de cheveux. Alors, c'est un peu plus, ça a un peu plus de conséquences que ça en général. Sauf qu'une coupe de cheveux, ça peut faire beaucoup de bien. Enfin, tout le monde le sait. Il ne faut pas mépriser l'effet des coupes de cheveux sur les gens. Mais en fait, j'aime bien cette métaphore parce que on est toujours soi-même. Et un client, si on peut faire la comparaison avec une personne. Ça a des limites, mais quand même, on peut. Il est lui-même, il est toujours le même, mais il a envie de changer, il a besoin de reséduire, de se représenter un peu autrement aux yeux des gens. Et donc, voilà. On connaît tous ce genre d'expérience.
Mais alors, finalement, les mots-clés que j'ai relevés dans votre livre, vous avez choisi des mots-clés parce qu'il y a des mots-clés par entrée de chapitre.
Ouais.
Et on va y revenir. Moi, les mots-clés que j'ai un peu retenus de votre livre, c'est exagérer, en même temps simplifier, en même temps séduire. Et on pourrait dire finalement que ces trois-là regrouperaient le mot désir.
C'est pas mal, je trouve. Mais oui, parce que c'est assez complexe tout ça mis ensemble. Et c'est vrai que la simplification, par exemple... qui est pas forcément un truc que j'adore comme ça en tant que être humain, parce que moi j'ai l'impression de nager dans la complexité plutôt que de nager dans la simplicité. Mais c'est une activité intellectuelle ou une activité de vers l'autre aussi, de clarification, d'établir. Une image qui est assez juste, qui résume quelque chose qui est très complexe. Donc ce mode de simplification, j'ai appris à le respecter et à le pratiquer dans la pub.
Et par
un des quatre mots.
Oui, c'est ça. Par exemple, ça, sur cette simplification, vous parlez des marques de lessive. Vous dites, en fait, la lessive, ça lave. Voilà.
Ça lave, oui, heureusement, tout le monde le sait, mais après, c'est plus qu'est-ce qu'on raconte de... Je me rappelle, quand j'étais petit, j'avais même pas l'idée de faire la pub, au contraire, j'avais plutôt l'idée de faire tout sauf de la pub, mais il y avait une lessive qui s'appelait Ariel, je crois que ça existe toujours, et qui avait réussi à s'attacher l'image de scientificité, de quelque chose de... Il devait y avoir une espèce des atomes sur le paquet, puis il y avait un mec en blouse blanche. Et donc ce terrain-là, ce mode d'expression, avait fini par faire entrer dans la tête des gens que elle l'avait mieux que les autres parce que elle était issue de la recherche scientifique. Et je me rappelle très bien, ça m'avait beaucoup amusé, que j'avais un oncle scientifique qui m'avait dit « Ariel, c'est la meilleure lessive ». Et donc j'avais connecté les deux, je me suis dit mais c'est dingue, c'est forcément, et je sais que moi j'ai acheté de l'Ariel à cause de ça. Enfin, j'ai jamais évidemment enquêté comme un journaliste pour savoir si il y avait des fondements scientifiques derrière, mais voilà, ça avait connecté deux trucs dans mon cerveau, mon vrai oncle indiscutable, et puis cette imagerie comme ça attachée à la marque, ça avait suffi.
Et c'est là qu'on arrive au mot exagéré.
Alors exagéré, oui, l'exagération, c'est de la rhétorique. C'est que c'est vrai que si on est un peu, comment dire, trop discret, si on rabaisse un peu les choses qu'on a à dire. On émerge moins. Et l'exagération, c'est aussi du commerce, c'est-à-dire que de manière plus générale, même entre nous, quand on va se parler de trucs qu'on a aimés, et spontanément, on va être dans l'exagération, par exemple, de ce qu'on aime pour faire passer quelque chose, un sentiment, et ça peut se transformer en conviction. Moi, quand il y a un ami qui est hypertrophique sur quelque chose qu'il a vu au cinéma, j'ai deux fois plus de chances d'y aller vraiment que quand j'entends même pas ce qu'il me dit sur le sujet. Donc mais en fait, tout ça, c'est pas des attitudes seulement professionnelles ou théorisées dans la publicité. C'est des choses qu'on éprouve chacun dans des actes de communication tous les jours.
Et vous parlez de rhétorique, donc ça rejoint autre chose que vous dites dans ce livre, c'est qu'en fait, finalement, le sujet, c'est savoir ce qu'on va dire, ok, mais le plus important, c'est la façon dont on va le dire.
Ouais.
C'est ça. Donc, finalement, il faut être très observateur et avoir beaucoup de culot.
Observateur, ça c'est très important parce que d'ailleurs c'est souvent quelque chose qu'on n'accorde pas à ce métier-là de la publicité. On se dit tiens, ils sont un peu superficiels, ils sont rapides, ils sont un peu lourds quelquefois, mais justement ils sont pas observateurs. C'est l'inverse. Enfin, disons les bonnes agences de publicité ou les succès des bonnes campagnes, c'est souvent basé sur une observation très fine. Digne d'études sociologiques en fait sur les gens, leurs aspirations, le moment qu'ils traversent, etc. Donc il y a beaucoup d'observations au départ pour être entendu à la fin.
C'est la raison pour laquelle vraiment les marques sont associées à des générations.
Sans doute parce que les générations. C'est intéressant votre question parce que les générations actuellement. On a même du mal, nous, à les définir. Il y a toutes ces célèbres générations X, Y, Z, les boomers et compagnie. Donc on a toujours une espèce de définition de la génération qui est un peu la vingtaine d'années qu'il faut pour faire un enfant et puis pour renouveler. Mais aujourd'hui, il y a tellement de boucles, de micro-générations à l'intérieur des générations. Ils plaisantent d'ailleurs entre eux sur est-ce que tu es un 2002, est-ce que tu es un 98, est-ce que finalement il y a des micro-générations auxquelles on ne peut pas s'adresser de la même manière, et donc il y a encore plus de subtilité et d'écoute à avoir pour pouvoir toucher les gens dans ce nouveau paysage de micro-générations.
Alors finalement, qu'est-ce qui a fait le succès, comment expliquer, c'est une alchimie mystérieuse. Dans votre livre, vous citez par exemple le succès d'un Lopilo 97 qui reçoit un prix et qui est une pub géniale d'un type qui se prend pour un singe et qui saute sur son matelas pendant que sa femme raconte que son mari adore jouer sur le lit. Vous parlez du succès incroyable des bébés Evian. On se souvient tous des Monoprix aussi, qui tout d'un coup, une image très quotidienne, mais très drôle, très décalée. Mais Au moment où ces publicités sortent, c'est vraiment comme le reste, quoi. Vous ne savez pas quelle ampleur ça aura, jamais. Ou vous avez déjà une indication.
Bah, en fait, souvent, de plus en plus, les annonceurs préfèrent savoir où ils mettent les pieds. Alors, est-ce que leurs outils de prédiction sont justes ? Pas forcément. Mais en tout cas, on a moins d'esprit d'aventure qu'avant. Avant, on pouvait faire des campagnes sans faire des études qui allaient prédire l'effet qu'elles allaient avoir sur les gens. Maintenant, on ne fait plus rien sans voir ce qui va se produire sur les gens.
Et on le sait à l'avance.
On le sait à l'avance. Non, on fait des études. Et quelquefois, les études se trompent. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que le mindset de l'annonceur, c'est quand même d'être sûr qu'il a raison de faire ce qu'il est en train de préparer, quel que soit le domaine du marché. Et donc, je dis ça parce qu'il y a un peu moins d'esprit d'aventure dans ces grandes monoprix, par exemple, on n'a jamais testé. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce genre de campagne... elle serait testée dans tous les sens avant d'espérer voir le jour. Et je pense que en étant testée, elle serait tuée, neutralisée, parce que on aurait des réactions sur chaque mot, chaque titre, en disant bah ça oui, mais ça non, mais ça il faudrait le réécrire comme ci, comme ça. Donc on aurait perdu dans cette préfiguration, dans ces tests, toute la le côté un peu vivant et un peu lâché de la campagne Monoprix.
Parce que vous dites ça, vous dites aussi, vous prenez l'exemple de Virgin Megastore avec Hans Amberland, qui sont des affiches magnifiques. Enfin, moi, je suis vraiment de cette génération-là. Je me souviens très, très bien de ces grandes publicités qui étaient extraordinaires, cette campagne. Et de Hans Amberland qui disait, ces affiches, elles disent qu'on peut être grosse et belle. Et vous dites que aujourd'hui, typiquement, ce genre de questionnement est rentré dans la publicité et se confond avec beaucoup d'autres choses. Et que du coup, le propos perd presque sa force.
Oui, alors ce qui est drôle avec cette campagne, c'est que avant toutes toute cette tendance chez les marques d'être. Qui est une tendance très opportuniste, comme on l'a vu récemment d'ailleurs, d'être archi-inclusif et donc de faire des campagnes avec des personnes obèses ou des personnes trisomiques ou enfin toutes ces catégories de gens qui étaient totalement exclus de la publicité avant, c'est devenu progressivement presque un prérequis quand on veut être une belle marque qui coche toutes les cases de l'inclusivité et tout. Mais à l'époque de cette campagne-là, c'était l'inverse. C'est-à-dire mettre Hans Amberland comme ça, comme une muse magnifique, mais énorme, pour promouvoir quelque chose, c'était vu comme une provocation. Hein. Et moi, c'est pour ça que j'ai adoré faire cette campagne, parce qu'à l'époque, il y avait une grossophobie énorme. C'était impossible de montrer un gros dans la pub.
Mais donc, ça veut dire que quoi, qu'il y a des marques avec lesquelles on ne peut pas rire ou qu'on peut moins rire pour toutes les marques aujourd'hui. Quelle est la place de l'humour aujourd'hui dans la pub, finalement? Parce que pour préparer cette interview, et grâce à votre livre, hein, bon, je me suis marrée comme une baleine, j'allais dire, parce que avec votre livre, je suis allée chercher des tas de pubs dont vous parlez, des tas de films. Et j'ai vraiment beaucoup ri, je vous remercie. C'était vraiment un plaisir de préparer cette interview. Et je me suis fait la réflexion en me disant, on en est où du rire aujourd'hui dans la pub?
Ah ben, on n'est pas bien. Hein. Non, on n'est pas bien. Et moi, ça me fatigue parce que j'ai toujours adoré faire des trucs drôles. Et l'agence en a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai que maintenant, on a plus de mal. Mais là, je viens de sortir un film, enfin, l'agence... sur Citroën, qui est très drôle et qui nous fait espérer qu'on peut renouer avec ce genre d'humour, y compris pour des grandes catégories de marché comme l'automobile, parce que là, c'est Citroën. Et ça vient de sortir, donc vous pouvez le regarder, mais il est assez drôle. Il y a E.T. Et c'est très drôle.
Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? C'est ça, c'est que tous ces sujets de société ont fini par suffisamment s'imposer pour empêcher la créativité ou la limiter?
Bah, y a eu cette espèce de glacis comme ça où fallait tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de dire quoi que ce soit parce qu'on avait peur de vexer telle ou telle catégorie, d'offenser telle ou telle autre, tout ce qui est cliché, par exemple, jeu avec les clichés, fallait complètement oublier. Hein. Ça fait 10 ans qu'il n'y a plus de clichés et que, au contraire, tout le monde s'applique à. Alors, c'est le nouveau cliché hein, de cocher toutes ces cases, mais on ne peut plus rigoler ni avec. Enfin, avec aucun cliché hein, de genre, de. Et donc, le jeu avec les clichés, le second degré, le célèbre second degré qu'on pratique entre nous, que la publicité pratiquait aussi, il est complètement... Il a cessé. Avec cette nouvelle société dans laquelle on est, où il ne faut pas rigoler. On peut pas on peut rigoler de personne.
Ah oui.
Voilà, alors après il faut trouver d'autres sujets de rigoler, mais en tout cas on peut rigoler de personne.
Et au milieu, vous dites aussi que les hommes sont assez mal placés dans cette histoire, hein, c'est-à-dire qu'ils sont au milieu d'injonctions complètement contradictoires, et que là, alors là, c'est presque un sujet en soi qui est devenu mystérieux pour le traiter.
Ouais, les hommes, bon, ça n'a jamais été simple, hein, les hommes, mais c'est vrai que. Je ne sais pas si je le raconte dans mon livre, mais il y a aussi plein de nouvelles injonctions qui pèsent sur les hommes.
Oui, vous le racontez.
Et à un moment, on avait un film pour un grand client à faire sur où il y avait une scène de déménagement. Et donc, on envoie toujours nos scripts pour les faire contrôler, parce que nous, on est sans doute la profession la plus surveillée de toute la communication au sens large. Hein. On est 10 fois plus surveillé que les journalistes, par exemple. Tout est pesé, sous-pesé, discuté. Tu peux faire ça, tu peux pas faire ça. Et puis, on a plein de lois qui cadrent tout ça. Donc, le jeu consiste d'ailleurs à essayer de passer à travers toutes ces difficultés. Et dans le film, il y avait une scène de déménagement. Et on avait écrit... la fille cherche pour faire son déménagement 4 gros bras pour l'aider à faire son déménagement. Et donc on avait reçu un retour de l'institut qui contrôle tout ça, qui nous a répondu déménageur oui, gros bras non. On ne pouvait pas imaginer. Simplement représenter des déménageurs avec des gros bras parce que c'était un cliché de genre, de sexe, de je sais pas, mais voilà.
Pourquoi vous dites que ça n'a jamais été simple, les hommes?
Parce que d'abord, la publicité a été la publicité, c'est quand même un reflet de la société donc. On a été les amplificateurs d'une image de l'homme complètement machiste, complètement pendant très très longtemps. Quand on voit les vieilles pubs des années 60-70, on a l'impression que c'est faux tellement c'est effrayant. Non, mais c'est drôle d'ailleurs, rétrospectif. Et maintenant, y a eu cette difficulté à représenter l'homme après qu'il ait pris toute la place et tout le pouvoir dans la représentation qu'on en faisait. Il y a une sorte de révolution portée par le féminisme qui a vraiment percuté toutes les représentations des femmes et des hommes dans la pub. C'était hyper intéressant hein, où les femmes n'étaient plus spécialisées dans les tâches ménagères. Elles étaient scientifiques et tout, et les hommes commençaient à faire la vaisselle, etc. Donc il y a eu vraiment une sorte de rééquilibrage général qui était un peu faux d'ailleurs par rapport à la réalité, parce que en fait, dans les foyers, dans les familles, les rôles n'étaient pas si inversés que ça. Mais son statut est passé de personnage principal à personnage en perpétuelle redéfinition. Et c'est pour ça que l'homme est plus difficile, je trouve. Ça serait intéressant, hein, d'ailleurs, de raconter une histoire de l'homme au sens sexe dans la pub.
Alors, vous racontez que quand vous rentrez dans une agence de publicité, vous êtes tout jeune, vos parents ne sautent pas de joie tout de suite. Vous dites qu'à l'époque, vous êtes plus taiseux qu'autre chose, que finalement, a priori, ça va vous arranger de faire des slogans qui sont écrits du moment qu'on vous demande pas de parler. Et que si à la fois vos parents regardent ça d'un très mauvais œil, vous êtes en même temps au cœur des années fantastiques de la publicité. Quel genre d'homme vous êtes quand vous arrivez justement dans cet univers qui va parler des hommes et des femmes dans la publicité?
Bah, je sais pas vraiment dire, mais je pense que je suis plein de moi-même habité par plein de clichés sur la publicité déjà. Et je suis jeune, donc pas si jeune que ça d'ailleurs, parce que j'ai commencé tard, mais je suis sidéré de toucher la vie active dans une entreprise, alors que j'avais une trajectoire qui me destinait plutôt à l'enseignement. Et du coup, je me dis, tiens, là, je mets un pied dans une autre partie du monde qui n'était pas du tout une partie qu'on avait l'habitude de fréquenter dans ma famille, hein, puisque nous, c'est plus libraire, universitaire et tout ça. Et donc, c'était vraiment une joie de mettre un pied dans une partie du monde complètement étrangère à tout ce que j'avais connu. Et après, il y avait l'arrogance toujours du milieu duquel on vient. Et ça m'a soigné d'une forme d'arrogance qu'il y a quand on vient d'un milieu un peu intellectuel, un peu autour de la culture, de l'enseignement et tout, et qu'on regarde le monde de l'entreprise. Et mon espèce de révolution copernicienne, si on peut dire. J'ai découvert le monde de l'entreprise, j'ai aimé, et j'avais la force critique aussi de toute mon éducation et j'ai fait une sorte de cuisine avec tout ça qui m'a beaucoup plu à l'arrivée.
Et vous dites aussi que dans la publicité, on parle toujours de soi finalement, et que il faut une sorte de bagage de culture générale assez dense pour pouvoir faire de la pub, parce que c'est du clin d'œil à l'autre quand même quelque part.
Ouais, alors on n'imagine pas la tonne de savoir et de connaissances et de culture qu'il y a dans une agence de pub. C'est des mots qui vont pas bien ensemble en général dans la tête des gens qui sont censés pourtant savoir et connaître, mais c'est ça qui m'a le plus sidéré. Alors j'ai eu la chance, je suis rentré dans une très bonne agence qui était une agence qui était en pleine expansion à l'époque. Puis après, quand j'ai créé BETC, ça a été aussi un axe pour moi de prolonger ce genre de métier appuyé sur la connaissance. On a une doc, par exemple, à l'agence. Je pense qu'aucune agence n'a de doc comme ça. Et tout ce qu'on fait et tout ce qu'on propose est vérifié, approfondi, étudié par la doc. Donc d'abord, on veut savoir de quoi on parle. On veut savoir si ce que les clients nous disent est vrai, dans quelle mesure. Et ensuite, on commence à travailler et à faire à étudier des angles et voir comment on pourrait s'adresser aux gens avec telle problématique. Mais il y a un énorme travail souterrain qu'on ne voit jamais, parce qu'on voit juste la fin ou à la télé ou sur les réseaux sociaux, mais qui est cette forme d'étude, en fait.
Alors, sur ce côté, la publicité, elle part aussi un peu de l'histoire de chacun, ou de sa famille, ou de ses amis, ou de ce qu'il vit. Vous avez un souvenir comme ça de quelque chose qui est né de quelque chose qui vous était familier?
Qui se soit transformé en pub?
Ouais. Hein. Qui, en tout cas, qui est impulsé.
Ouais, il y a un truc... c'est au moment où vous me posez la question. L'autre jour, je prenais un petit déjeuner, il y a 3 jours, avec mon premier directeur artistique dans mon agence précédente. Et c'est justement avec lui qu'on a fait toutes ces affiches Virgin Megastore. Et on a fait notamment une affiche sur le livre que j'adore. Et je lui ai dit, mais et puis on discute comme ça. Et je lui dis, mais tu te rends compte que en regardant le livre, je me suis aperçu qu'on avait fait une affiche. Moi, c'est sans doute une des affiches que je préfère de toutes celles que j'ai faites sur le livre. Et en fait, c'est une affiche qui dit, mais lisez. Vous n'imaginez pas le pouvoir d'un livre ou de la lecture sur vos vies, etc. Et elle m'a évoqué l'affiche que j'avais dans ma classe quand j'étais petit. Et on se raconte ça, là, tous les deux. Lui, il ne l'avait pas eu dans sa classe. De Gérard Philippe, en train de dévorer un livre. Et cette affiche-là, ça, je le raconte un peu.
Oui, en fait, dans le livre, il y a un gros passage.
Ça a été un déclic parce que je me disais, mais c'est dingue. Ils affichent ça dans les classes quand même. Un mec est en train de déchiqueter un livre avec les dents, c'est-à-dire le truc qu'il faut pas faire quand on est gosse. Il faut pas lire comme ça. Mais ça a instillé un désir de faire ça, donc de prendre des livres et de les déchiqueter, de les dévorer. Et j'ai trouvé cette affiche. J'ai toujours trouvé cette affiche extraordinaire pour mettre la petite graine dans la tête des élèves qui étaient devant. Et quand on a fait l'affiche de Virgin, c'était Anne Zamberlan comme ça sur le ventre avec des pages de livres comme ça ouvertes, mais comme deux petites ailes qui essayent de la faire décoller. Donc c'est un livre transformé en aile. Et j'ai trouvé ça. Et finalement, je lui dis, mais tu sais qu'à mon avis, on a fait une affiche qui est aussi forte. Bon, elle est moins connue parce qu'elle n'a pas été, elle n'a pas beaucoup circulé, mais aussi forte que celle de Gérard Philippe qu'on avait dans notre classe quand on était petit.
Oui, et donc
exemple de vraiment une pub que je vois et qui se transforme, enfin une expérience que je vois et qui se transforme 20 ans après en une autre pub.
Et dans cette ambiance comme ça, finalement baignée de qui vous êtes, de qui nous sommes. Il en reste des traces dont vous parlez, hein, dans ce livre, en disant que finalement les marques, les objets deviennent des marques, ou plutôt les choses se transforment en marques. Bon, ma phrase ne veut rien dire, alors je vais le dire autrement. À propos de ça, vous dites qu'il y a des objets qui deviennent des noms de marques, comme par exemple, je prends mon Kawai ou je prends mes pâtes au gaz. C'est-à-dire que c'est la marque est devenue tellement familière au quotidien que l'objet ne porte plus le nom botte, mais le nom patogas.
Tout à fait.
Et ça, c'est
une ça, je pense que c'est un truc qui m'a fasciné assez tôt. C'est de me dire que finalement, à travers le nom de la marque, ça exprimait mieux l'affinité que j'avais avec l'objet. Parce qu'on disait, bah, mets tes patogas, mets ton kawaii, papa va prendre sa mobilette, etc. Ou ouvre le frigidaire, et ça crée quelque chose de plus familier, de plus sensible finalement que s'il avait dit réfrigérateur, motocyclette. Là ça ramait plus, et du coup il y avait une espèce de magie, mais j'analysais pas du tout, hein, mais déjà de magie de la marque qui introduisait quelque chose de très spécial, très unique et de très chaud, finalement, dans cette manière de décrire les objets, en fait.
Et ça parle de culture, de pays, de culture locale, de culture de famille. Et dans votre livre, vous parlez à la fois de ça, hein, il y a des pubs qui ne peuvent pas s'exporter, d'une part, et d'autre part, vous parlez aussi de la culture de l'entreprise, de l'intérieur de l'entreprise dans laquelle vous êtes et qui compte énormément. Il est vraiment question de culture au sens du lien à l'autre et de génération, d'époque, et donc d'une grande sensibilité finalement.
Ouais, parce que bah là encore une fois, quand on n'est pas dans ce monde de l'entreprise, on imagine facilement, souvent, enfin surtout en France, que le mot culture appliqué à l'entreprise, c'est un peu du bullshit habituel et que c'est pas un mot vraiment adapté pour décrire ce qui se passe dans les entreprises. Mais moi, c'est vrai que j'ai vécu l'inverse. Alors, en plus, j'ai une vision très large de la culture, plus anglo-saxonne du mot culture. C'est vraiment plus des pratiques, des valeurs, des actions qui sont particulières à une entreprise. Mais moi, j'ai l'impression que quand on avance en tant qu'entreprise, on avance bien que quand on est vraiment une entreprise culturelle, au sens où, par exemple, nous, on a choisi les endroits où on va s'installer, les quartiers où on s'installe. On a eu la chance de construire nous-mêmes nos bâtiments. Ça a du sens. Ces bâtiments, ils fonctionnent d'une certaine manière parce qu'on est comme ça et que c'est un ensemble de choix qui font que on n'est pas une entreprise comme les autres, comme toutes les entreprises. Hein. Mais c'est intéressant parce que c'est aussi un ensemble de gens qui génèrent eux-mêmes leur culture. C'est pas le patron qui dit ah ben voilà, ça sera comme ci, comme ça et tout. Alors au début, un petit peu, mais après, c'est par cooptation, par recrutement, par la vie de l'entreprise peut prolonger, agrandir, approfondir ce genre de culture ou pas d'ailleurs. Mais nous, on est vachement attaché au fait que ça grandisse à travers les gens qui nous rejoignent. C'est fragile tout ça. Il n'y a rien de plus fragile qu'une culture d'entreprise et il n'y a rien de plus efficace pour être fort. C'est paradoxal.
Pourquoi c'est fragile?
C'est fragile parce que, je vous donne un exemple, Bolloré arrive dans Canal+, et l'esprit, ce qu'on a appelé l'esprit de Canal+, ou la culture de Canal+, change en 6 mois ou en 9 mois. Donc après, on en pense qu'on en veut, etc. Mais c'est une culture d'entreprise qui avait prospéré, qui s'était générée elle-même, qui s'était épanouie de manière unique. Et il suffit de changer les paramètres, surtout les gens, d'ailleurs. Parce qu'en fait, c'est les gens. Hein. C'est les gens qui transmettent et qui propagent la culture. Si vous changez les gens, vous pouvez changer la culture d'une boîte du jour au lendemain, ça paraît évident, mais ça arrive tous les jours.
Et la culture d'une entreprise qui fait de la publicité, c'est d'être finalement très ouvert aux autres, au temps. Vous racontez dans ce livre, justement à propos de ces bâtiments, hein, vous racontez que déjeuner ensemble, c'est pas seulement s'arrêter pour se nourrir, c'est un temps. D'ailleurs, il y a une recette de cake au citron dans votre livre qui est la recette de votre agence de pub. Donc finalement, je parlais de sensibilité, c'est quand même un rapport à l'autre, à l'écoute, au temps, qui semble complètement s'arrêter à une époque où tout s'accélère. Parce que dans le même temps, vous dites, mon entreprise a 30 ans, en réalité, elle a 1000 ans, tellement tout va très, très vite. Et ça rejoint ce que vous disiez sur les générations qui s'accélèrent, qui sont plus en 20 ans, mais en 10 minutes. Et donc, c'est quand même un rapport. C'est prendre le temps de l'autre et du monde différemment. C'est ça la culture d'une boîte de pub?
Oui, en fait, moi j'adore ces questions de temps parce que on est tous plongés dans les mêmes affres par rapport à ces questions-là. Mais appliquer à une entreprise, ne pas s'adapter et ne pas se colter avec tous les changements qui arrivent, c'est mortel. Et donc, on ne peut pas passer, puis on n'y arrivera jamais. Par contre, ne pas être ancré ou avoir une ancre qui est indépendante du temps qui passe, c'est mortel aussi. Parce qu'on est vulnérable, on change trop vite, et dans l'adaptation, on se perd. Donc nous, on a... pour moi, une bonne entreprise, c'est une entreprise qui a les deux. Qui a les deux modes, les deux fonctions, les deux sensibilités à ce temps qui ancre. Quand vous dites, on a 1000 ans, ouais. Parce que c'est vrai qu'on s'est pris Internet, et là, on est en train de se prendre l'intelligence artificielle, donc deux révolutions majeures, techniques majeures, en 30 ans. Et donc, je pense que dans les siècles précédents, il n'y a jamais eu une entreprise ou d'ailleurs une génération qui s'est pris autant de révolutions en si peu de temps. Donc ça, il faut être capable. Et en même temps, si on n'a pas cette ancre, Et moi, c'est vrai que je traduis souvent en lenteur. Il faut être hyper rapide, mais il faut être capable d'être lent. Alors, le déjeuner, ça a l'air léger par rapport à ces notions-là, mais déjeuner ensemble et ne pas prendre un sandwich en 5 minutes sur sa table parce qu'en fait, on peut très bien manger en travaillant. Non, nous, c'est pas comme ça. Oui, c'est vrai qu'on déjeune. On déjeune parce qu'on est content de se voir et de se parler d'autres choses. Et puis parce que on a fait attention à nous à l'agence, par exemple, il y a une chef. C'est une chef qui fait la bouffe. C'est pas des prestataires qui viennent faire la cantine et tout ça. C'est nous. Tout ce qu'on crée dans la cantine, c'est aussi une forme de création d'un temps différent, d'un lieu différent, parce que c'est un lieu où tout le monde se retrouve, continue à travailler après le repas. Enfin, tout ça, c'est des tout petits éléments, mais qui font que ça dessine un temps et un lieu qui est différent et qui fait la culture d'une entreprise.
Mais il y a quelque chose de l'enfance hein, dans ce que vous racontez, aussi bien dans votre livre que là, quand je vous écoute. Il y a quelque chose de l'enfance qui s'inspire comme une éponge de tout ce qui se passe autour de lui, des gens qui sont autour de lui, de ce qui leur arrive, et qui en même temps détourne tout avec Barbie qui tombe amoureuse d'un Lego qui lui arrive au genou. Il y a de ça quand même dans ce que vous racontez.
Ben, je sais pas, oui, l'enfance, je pense que l'enfance, c'est un temps particulier, peut-être qui arrive à combiner tout ça, parce qu'en fait, le nombre de révolutions qu'on se prend quand on est enfant, enfin, c'est d'autres révolutions, c'est des révolutions physiologiques complètement folles, on serait incapable d'encaisser à l'âge qu'on a maintenant, hein. Et en même temps, une espèce d'immobilité par rapport au temps. Et donc, il y a ces deux sensibilités dans l'enfance.
Et la capacité d'en faire quelque chose de ludique.
C'est ça, de tout détourner, de tout réutiliser, de tout transformer. C'est vrai.
Donc, en cela, il y a quelque chose de l'essence même de ce que nous sommes capables de faire.
Oui, c'est vrai. Et c'est marrant parce que ce que vous dites de l'enfance, c'est que quand on a mis Evian sur cette notion-là de jeunesse et d'enfance, je pense qu'on avait ces deux dimensions aussi. C'est-à-dire que ce qui est fascinant dans l'enfance ou dans la jeunesse, parce que Evian, c'était l'eau, c'était presque l'eau de jouvence, hein, c'est un vieux mythe universel. Et enfin, je sais pas s'il est universel d'ailleurs, mais je crois qu'il l'est. Et qui dit un peu à la fois la puissance de l'enfance, sa capacité à s'adapter en permanence, et une sorte de rêve qu'on poursuit quand on la quitte assez vite, hein, l'enfance, mais qu'on a toujours en nous. En fait, c'est un rêve qu'on a avec lequel on vit plus ou moins. On est un peu un enfant jusqu'au bout, en fait.
Et alors, vous disiez tout à l'heure, bon, finalement, voilà, cette alchimie comme ça, délicate, dans votre livre, on voit bien, vous avez du mal à la poser à une seule et même place. J'entends par là, vous dites que les publicitaires ne sont pas des artistes. Pourtant, on voit bien, dans votre livre, vous citez des grands réalisateurs de cinéma qui sont venus faire de la pub, comme Gondry, par exemple, et c'est pas le seul. Et vous, quand vous en faites, bah, vous faites des films aussi, donc ça relève quand même aussi de la création artistique. En même temps, vous dites dans ce livre que le mot cuisine revient beaucoup dans le travail du publicitaire, comme s'il y avait ce côté des ingrédients, des recettes, et finalement, on détourne la recette, on en fait une autre. Donc là, ça relève plutôt de l'artisanat que de l'artistique. Ouais. Et donc, comment se fait-il que ce métier soit au carrefour de plein de trucs, mais sans positionnement aussi glorieux ou mis en avant que les réalisateurs de cinéma ? Parce que vous faites des films quand même.
Ouais, mais je pense que. Alors, il y a un truc français hein, autour de la place de la pub dans la société. On est un pays qui la place un peu très bas parce que on est le pays des lumières et on n'est pas le pays du commerce et de l'entreprise, en gros. Hein. Et donc, comme nous, on est à la croisée un peu de tout, on nous range du côté du commerce et de l'entreprise, alors que quand on fait du commerce, quand on a des échanges à faire, quand on il faut qu'on démontre des choses, qu'on convainque de choses et tout ce qui est l'activité publicitaire, ben on est obligé de mobiliser des moyens, des talents, des arts qui sont inimaginables. Moi, c'est ça que j'ai adoré aussi dans ce métier-là, c'est que il y a des graphistes, des réalisateurs, des peintres, des musiciens, on est entouré de grands artistes. Mais nous, et c'est ça aussi que j'aime comme position, c'est que on parle pas que à des artistes. On parle à des grands commerçants, on parle à des grands entrepreneurs, et surtout on parle à des gens qui en ont rien à foutre de nos produits au bout du compte. C'est-à-dire que a priori, ils sont pas concernés. Et donc il faut qu'on invente des moyens de leur parler bien et de pouvoir les intéresser dans la flopée de trucs qu'ils reçoivent tous les jours. Donc on est au milieu de plein de conversations et on doit être capable de parler avec tous ces gens-là. Donc on parle des langages différents et on est souvent des traducteurs. On peut parler entre un artiste et un entrepreneur. On sait parler aux deux et on sait les faire parler ensemble. Donc on est une sorte de centre de traduction comme ça, de plein de langages différents qui ont du mal à se rencontrer d'habitude. Et vous parliez d'art. En fait, s'il y a un art, pour moi, dans la pub, c'est plus celui-là. Et c'est ça que j'aime bien, mais il ne sera jamais décrit comme ça. Hein. Moi, souvent, je dis qu'on est des avocats pour faire comprendre vite ce qu'on est, mais on est des avocats de tas de trucs, des trucs nobles, des trucs moins nobles, des trucs de tout ce que le marché produit. Et tout ce que la société produit, parce que on s'occupe d'associations, on s'occupe d'institutions culturelles, donc on vend pas simplement des yaourts et des voitures. Tout ce qui a besoin d'être présenté, raconté, de concerner des gens, et ben on s'y colle, et c'est ça qui est intéressant. Et c'est le même métier que ça soit pour un. Je donne un exemple dans le livre qui est un truc très difficile à faire. Qui est un copain qui est éditeur qui me dit j'ai fait une encyclopédie mondiale du théâtre, qu'est-ce que tu ferais là-dessus? Je dis mais putain, mais c'est pas possible, je sais pas moi. Et donc, mais on s'y est mis quand même. Et donc c'est un truc très niche, très peu de clients au bout, mais on a essayé de le faire le mieux possible.
Oui, parce que vous dites ça aussi, vous dites finalement la pub elle est arrivée parce qu'on a multiplié les objets à la maison. Et vous dites aussi, aujourd'hui, on se rend bien compte que dans les défis que nous avons, il faut aussi défendre des causes et plus seulement des objets. Ça fait partie, dans les révolutions dont vous parliez tout à l'heure, il y a celle-là quand même qui est assez majeure.
Ouais. Ben celle-là, elle est compliquée à décrire parce que on voit bien ce qui s'est passé avec l'arrivée de Trump. Parce qu'il y a des combats... Il y a des combats qui ont été portés par des marques. Et j'ai du mal avec... Je pense que fondamentalement, une marque est assez... est avant tout opportuniste. Et c'est pas un reproche que je fais aux marques ou aux entreprises, c'est qu'elles ont un impératif de survivre. Il y a plein de gens qui bossent et donc il faut qu'ils continuent à bosser. Donc ça crée des choses très crues et très scandaleuses comme le retournement de veste de Zuckerberg avec Meta. Mais quand on voit ça, on se le prend dans la figure, mais on oublie que une marque est avant tout opportuniste. Barbie, ils ont épousé à peu près tous les standards en vogue dans la société, époque après époque. Ça a été une pin-up, c'est devenu une présidente de la République, une cosmonaute, et après c'est devenu une fille obèse ou trisomique. Et donc, où est le combat de Barbie là-dedans? Il y a avant tout un combat d'entreprise d'adaptation. Et donc, faut pas se gourer là-dessus. Après, moi, je pense que les entreprises, elles ont des combats plus de valeur, mais pas au sens valeurs politiques un peu exprimées, comme on a vu les marques américaines, il y avait plein de marques progressistes américaines qui sont en train de retourner leur veste les unes après les autres. Donc ça pose vraiment des questions d'authenticité, de sincérité, en fait. Mais par contre, dans la manière dont on gère une entreprise, la manière de choisir ce qu'on fait, ce qu'on fait pas, la manière de le type de produit qu'on produit, comment il est fait, parce que ça c'est des vraies choses qui vont toucher à la transformation qui est en cours, hein, malgré tout ce qu'on peut entendre avec Trump et tout ça, mais il y a une transformation qui est absolument inéluctable et nécessaire. Et donc, nous, on met notre petite pierre là-dedans, mais plus dans les pratiques, dans des pratiques qui sont un peu plus vertueuses, dans moins d'énergie là, tel type d'encre pour les affiches, etc. Donc, c'est des toutes petites choses, mais là, je pense que chaque entreprise, dans son domaine, est lancée dans ces micro-transformations qui vont dans le bon sens.
Et dans ce livre, vous parlez d'un documentaire que j'ai regardé, du coup, hein, grâce à vous, sur la publicité, dans lequel vous apparaissez. Et il est question de cette morale. Il est question de ce sujet-là. Et c'est intéressant parce que dans ce documentaire, il est dit que finalement, la pub ne ment pas plus qu'ailleurs, pas plus qu'au cinéma, par exemple, et que même elle prend des précautions en disant, avant la série de pubs, attention, c'est de la pub, et à la fin, attention, c'est fini. Ce qui est très intéressant. Et donc, de cette manière, finalement, vous repositionnez les choses en disant, pourquoi tout le monde tape sur la pub ? Finalement, la morale, elle est partout. Alors quoi ? Elle est plus visible dans la pub ? Ou on décide qu'elle est plus facilement reprochable dans la pub ?
Ben, en fait, c'est... D'abord, je pense que c'est des trucs de génération. J'ai pas l'impression, enfin là, je m'avance peut-être, mais que les jeunes générations aient autant de prévention contre la pub. Et je pense que ils ont baigné d'une autre manière dans la pub. Et pour eux, c'est une forme de. J'aime pas ce mot-là, mais ce qu'on appelle la pop culture et tout, c'est quelque chose qui est voilà dans lequel ils baignent. Les marques s'adressent à eux et ils font, elles le font de plein de manières différentes. Disons qu'ils ont intégré que ça faisait partie de la culture contemporaine. Après, il y a des gens qui continuent à dire, déjà à oublier que la pub ça finance tous les médias. Parce qu'en général, quand on a des préventions contre la pub, on se dit, tiens, il nous fatigue. C'est sûr. Hein. Moi aussi, hein, je suis un des premiers fatigués quand il y a de la pub. J'essaye de zapper, etc. Mais c'est pas le sujet, en fait. Le sujet, c'est quand même la pub qui finance les médias. Et je me méfie autant d'un média qui n'a aucune pub, parce que je me demande... Quel est le type de gens qu'il y a derrière, quelles sont leurs valeurs, quelle est l'homogénéité qui a derrière, que d'un média avec de la pub. J'ai pas de cases là-dessus, mais je sais que cette pluralité des médias qu'on a, nous, qu'on a la chance d'avoir, elle est aussi due au fait que c'est la pub qui finance. Sinon, on aurait une chaîne ou deux et c'est tout, quoi.
Dans ce livre, vous dites aussi que voilà, dans les grands défis auxquels vous avez à faire face aujourd'hui, il y a ceux dont on a parlé, ceux qu'on a évoqués, mais il y a aussi les nouvelles législations, le fait que la radio n'existe plus en tant que radio, enfin pas de la même façon en tout cas. Donc les médias d'une façon générale n'existent plus de la même façon. Et puis vous dites aussi le slogan change puisqu'on ne lit plus. Donc à une époque, vous faisiez des campagnes d'affichage avec des slogans écrits, et qu'aujourd'hui, il faut le penser autrement, il faut que l'image parle d'elle-même. Et puis, bon, bien sûr, l'environnement, mais on a déjà abordé cette question. Là, voilà, c'est ça les gros défis de la pub aujourd'hui.
Ben, c'est intéressant cette question de l'image, parce que c'est vrai que le véhicule de la réputation, nous, c'est ce qu'on fait. Hein. On essaie de faire de la réputation autour de gens, de choses, d'entreprises. C'est l'image. Mais finalement, est-ce que c'est un véhicule efficace? Quelquefois, oui. Souvent, non. Et là, on a remplacé un peu la construction d'un discours, d'un récit, d'une argumentation qui était le propre de la pub, par un flux d'images. Parce qu'avec les réseaux sociaux, on est capable de toucher les gens à peu près tout le temps, de manière apparemment précise. Et donc, on se dit que comme on peut les toucher tout le temps et de manière apparemment précise, en sachant qui ils sont, ben on va leur balancer plein d'images comme ça autour des produits, des trucs. Mais ça les fatigue encore plus, hein, parce que d'abord, ils sont plus touchés qu'avant, donc c'est beaucoup plus fatigant. Mais il y a une sorte de démission de la pensée ou de l'argumentation ou du jeu avec ses cibles, ses clients qu'on doit toucher, qui fait qu'on s'est dit, tiens, les images vont faire le boulot, on va leur balancer des images à longueur de journée, ça va être cool. Il y a en ce moment un mouvement de recul par rapport à ça, parce que d'abord, on voit que le digital, la rémanence de ce qui arrive par le digital, elle est beaucoup plus faible que ce qui arrive par exemple par le papier ou par la voix. Et il y a des études très lourdes qui sont en cours et qui montrent que une image qu'on voit sur du papier, ça milite pour le livre, mais elle reste 10 fois ou 20 fois, ou je sais pas, enfin en tout cas c'est en train d'être argumenté que quelque chose qui glisse sur un écran, une image qui glisse sur un écran. Et donc, par exemple, les grandes marques de luxe qui ont usé et abusé du digital pour balancer leur territoire, leurs images, leurs imageries, leurs interventions, etc., commencent à étudier ça et à se dire, attention, là, on perd peut-être de l'argent tellement il y a déperdition d'efficacité des messages. Donc là, je pense qu'on est à un moment assez intéressant où on va se reposer des questions de qu'est-ce qui touche réellement les gens. Je dis souvent, les gens, on les atteint par mille moyens. Maintenant, on est piégé partout, 24 heures sur 24. Donc, on peut nous atteindre partout, mais qu'est-ce qui nous touche? Qu'est-ce qui nous touche réellement? Qu'est-ce qui nous émeut? Qu'est-ce qui nous fait rire? Qu'est-ce qui nous fait pleurer? Tout ça, ça va redevenir le truc important. Heureusement, hein.
Alors, ce sera ma dernière question, Rémi Babinet. C'est vrai qu'il y a des journées Mad Men chez vous, dans votre entreprise?
On a fait une journée Mad Men légendaire. Moi, j'aurais rêvé qu'on la refasse chaque année, mais ouais, on a fait une grande fête Mad Men. Là, c'est pareil, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure sur les clichés. On s'est dit, on va le jouer vraiment à fond, avec du whisky sur les tables, des cigarettes, etc. Et on était tous habillés en Mad Men depuis le matin. On a reçu nos clients comme ça. Donc un truc totalement interdit maintenant dans une entreprise, hein, parce qu'on n'a pas le droit de boire ni de fumer. Mais et ça s'est terminé par une grande fête Mad Men assez impressionnante, où on avait vraiment l'impression de replonger dans cette époque. Qui d'ailleurs, c'est une série. Enfin, pour les gens qui s'intéressent à la pub. Pour moi, c'est une série extraordinaire parce qu'elle rentre dans l'épaisseur de, même si c'est une autre époque, dans l'épaisseur de ce métier-là, sa place dans la société, la violence et la subtilité qu'il peut y avoir dans ces agences. C'était le début des agences de publicité, mais ça reste une série extraordinaire.
Oui, parce qu'on n'a pas le temps de parler aussi des déceptions, du nombre de déceptions. Il faut être courageux quand même pour revenir tous les matins et s'y remettre, puisqu'il y a quand même beaucoup de
déceptions. C'est l'école de l'humilité, c'est l'école du travail. Quelqu'un qui voudrait apprendre à écrire, mais moi, ça a été mon cas. Hein. Je mettais l'écriture très, très haut dans ma petite tête. Je suis arrivé dans la pub en me disant « Moi, je sais écrire, ils ne vont pas m'apprendre à écrire. » J'ai vite déchanté, je me suis aperçu que c'était un groupe de gens organisés pour pas être méchants les uns avec les autres, mais sans concession. Et donc, c'est une machine à écrire et à produire des choses intéressantes, complètement différentes de « je suis seul dans ma tour d'ivoire et j'écris des choses définitives ». Évidemment, c'est l'inverse, mais pour moi, c'est une école d'écriture.
Bon, mais en tout cas, merci beaucoup. Et je rappelle que ce livre est sorti aux éditions JBE Books. Le premier livre a collé sur votre boîte aux lettres. Bon, il est trop gros pour rentrer dans une boîte aux lettres, ce livre, mais il est vraiment passionnant. Merci beaucoup pour cet échange d'une heure. Et puis, on est content. On espère qu'on a fait un peu de pub au livre.
Merci à vous. Merci beaucoup. Ouais, c'est le sujet. Ouais.